Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. C'est le Salon de l'agriculture à Paris, l'occasion de se pencher sur les enjeux agricoles et alimentaires actuels sur fond de réchauffement climatique, à quelques semaines du Brexit, des élections européennes, à plusieurs mois de l'échéance 2020 qui mettra la politique agricole commune, sous-entendu européenne, sur de nouveaux chemins. Regard sur les puissances agricoles d'aujourd'hui, l'assise de la Russie et de l'Ukraine, le potentiel de l'Éthiopie, les défis de la Chine, de l'équation urbaine, les recompositions et les trajectoires agricoles des principaux acteurs. Nos invités, Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter, spécialisé dans le secteur agricole et agroalimentaire, chercheur associé à l'IRIS. Sébastien Abyss qui a également dirigé la dernière édition du Déméter, concentré d'analyse prospective sur l'agriculture, l'alimentation et le développement dans le monde. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Jean-Marc Chaumet, agroéconomiste à l'Institut de l'élevage, co-auteur avec Thierry Pouche de La Chine au risque de la dépendance alimentaire et membre du comité de rédaction de Déméter. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Buren, président de Vivesia, groupe coopératif agricole et agroalimentaire spécialisé dans la culture et la valorisation alimentaire des céréales. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
L'agriculture, un secteur plus que jamais prioritaire pour la stabilité du monde. Quel regard portez-vous sur le contexte dans lequel s'inscrit le Salon de l'agriculture qui vient donc d'ouvrir ses portes? On constate que le monde agricole est pour le moins secoué, les sociétés sont de plus en plus exigeantes sur le plan alimentaire, le monde agricole est montré du doigt. On entend ici la disparition à venir des insectes, là celle des oiseaux, les questions environnementales ont pris une place prépondérante au risque de tomber dans un agri-bashing. La prise de conscience de la fragilité de l'environnement et du réchauffement climatique conduit à la montée en puissance de différents courants de conscience écologique qui s'opposent au matérialisme imposé, l'agriculture intensive et décriée. Votre regard sur la situation aujourd'hui, Sébastien Abyss.
Vous l'avez dit, on a un contexte peut-être français très urbanisé, très tertiarisé, qui regarde la question agricole avec défiance, parfois critique de plus en plus, mais aussi méconnaissance parce que notre société française n'est plus en rapport direct avec l'agriculture, notre société française n'est plus intimement liés au monde ruraux et nous regardons parfois les mondes ruraux comme étant essentiellement des espaces de détente ou de loisirs dans lesquels il ne pourrait pas avoir d'activité économique ou d'activité productive. Or, notre système urbain français a oublié ces dernières années à quel point il dépendait pour se développer, pour son confort quotidien, de cette sécurité alimentaire qu'apporte justement l'activité agricole. Et il me semble en fait qu'il y a aujourd'hui une nécessité de regarder un peu plus loin dans le temps, un peu plus loin dans l'espace, plus globalement la question agricole pour que tout le monde puisse reprendre conscience que finalement l'alimentation est certes l'affaire de tous, tous les jours, sur tous les continents. Quand l'alimentation n'est pas là, chaque individu peut être très vite en difficulté sur le plan énergétique. Et puis quand l'alimentation vient à manquer, il y a des territoires, des régions, voire des pays qui peuvent se trouver en turbulence sociopolitique. Donc il faut rappeler que l'alimentation, c'est quand même le cœur de la sécurité humaine et le cœur de la sécurité collective. Et que cette alimentation vient d'une activité agricole qui n'appartient pas à l'histoire. L'activité agricole a un avenir prometteur compte tenu des défis planétaires et que l'activité agricole, eh ben aujourd'hui, elle essaye de répondre à des attentes de consommation qui se sont diversifiées avec des attentes de plus en plus exigeantes. On demande aux mondes agricoles de répondre à plein de défis, d'être capable d'être performant dans plein de domaines, peut-être plus que dans d'autres secteurs d'activité économique. Et il est grand temps d'essayer de réconcilier mondes agricoles et sociétés, notamment en France, parce que finalement, c'est plus la méconnaissance des uns et des autres qui nourrit éventuellement des inquiétudes et que l'absence de dialogue a été un peu pénalisant ces dernières années. Je pense que les mondes agricoles doivent entendre les attentes de la société, mais en même temps, la société doit se souvenir que sans les mondes agricoles, elle serait sans doute dans un état de sécurité bien moins fort.
Réconcilier mondes agricoles et nos sociétés, un commentaire, Christophe Buren.
En tant que président d'un groupe coopératif agricole et agroalimentaire, on est vraiment en fait dans tout ce questionnement, puisque nous partons de la production agricole, donc tous nos agriculteurs, les 11 000 agriculteurs du groupe, et nous allons jusqu'aux consommateurs, puisque nous sommes capables de transformer du blé en farine ou en croissant en France, mais également pour transformer des croissants en France et les exporter jusqu'en Chine. Et c'est là où nous sommes en fait confrontés à plusieurs choses. D'une part, je crois qu'aujourd'hui, notre société, certains ne considèrent ou ne regardent que l'environnement, d'autres ne regardent que le climat, et enfin les agriculteurs ont tendance à parler de production. Et il me semble aujourd'hui qu'il est important de concilier les trois. C'est-à-dire qu'il faut concilier la production agricole, puisqu'il faut nourrir cette planète, avec une population qui est en train encore d'augmenter fortement, puisque nous allons passer à 10 milliards d'habitants en 2050, et nous avons déjà aujourd'hui 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc il faut avoir ça en tête. Mais il faut également avoir en tête l'environnement, et bien entendu le changement climatique. Et il est absolument indispensable de relier les trois en permanence. On ne peut pas juste extirper soit la production agricole, soit l'environnement, soit le changement climatique. Et donc, quand on est groupe coopératif et également transformateur de ces produits agricoles, on est sensible en fait au changement en fait de besoins alimentaires ou de tendances alimentaires du citoyen, changements mais qui sont quotidiens, c'est-à-dire que ce que vous consommez le matin n'est parfois pas du tout la même chose l'après-midi. Donc la consommation alimentaire est plurielle. Et en face de cette consommation alimentaire plurielle, nos agriculteurs, dans notre coopérative, sont également des coopérateurs et des agriculteurs pluriels, parce que l'agriculture devient plurielle. Il y a des agricultures biologiques, il y a des agricultures locales, il y a des agricultures dites plus industrielles, mais en fait, nous avons besoin de tous ces modèles pour nourrir la planète, y compris pour nourrir juste les Français, puisque le Français lui-même s'alimente différemment tous les jours. Il a des choix alimentaires extrêmement variés.
Alors c'est intéressant de voir que Sébastien Abyss a mis l'accent sur la réconciliation entre monde agricole et société. Vous parlez, vous, Christophe Buren, de concilier, on est toujours un petit peu dans la même terminologie, environnement, climat, production, avec donc une consommation alimentaire plurielle. Jean-Marc Chomet, un commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent et...
Bien, je voudrais juste ajouter qu'il y a l'Europe, il y a la France, il y a aussi le reste du monde, et qu'on est dans un environnement qui évolue. On est avec des partenaires ou des concurrents qui n'ont pas forcément les mêmes règles, qui n'ont pas forcément les mêmes normes, qui n'ont pas forcément la même vision que nous. Et avec tout ça, une gouvernance, on dirait, du commerce agricole, de l'agriculture au niveau mondial, qui est bancale depuis quelques années. Et il faudrait aussi réconcilier ça un peu au niveau mondial pour éviter tout ce qui pourrait être distorsion de concurrence, tout ce qui pourrait aussi contraindre l'agriculture, notamment l'agriculture européenne, aussi bien sur son territoire que sur les exportations qu'elle pourrait avoir. Donc voilà, je voudrais juste élargir ça aussi au niveau mondial. C'est vrai qu'au niveau français, au niveau européen, il faudrait une politique commune, mais il y a aussi le niveau mondial à prendre en compte.
Alors, agriculture européenne, on y reste. Quelles craintes avec le Brexit ? On peut préciser que le Royaume-Uni est le troisième contributeur net au budget de la PAC, la politique agricole commune, après les Pays-Bas et surtout l'Allemagne. Que signifiera le Brexit pour la PAC ? Sébastien Abyss.
Ça a été dit, on est dans un moment de conscience à l'échelle française des problématiques agricoles et alimentaires qui n'est pas similaire à la prise de conscience planétaire. La prise de conscience planétaire, c'est un certain nombre de puissances qui maintiennent ou qui développent davantage des actions autour de l'agriculture et de l'impératif alimentaire. Parce qu'il y a plus de bouches à nourrir, parce qu'il y a plus d'exigences, il y a plus de demandes de diversité, il y a plus de demandes de transparence, il y a plus d'innovation, ce qui fait que des États restent extrêmement mobilisés sur l'effort alimentaire et sur la sécurité en agriculture. Il y a des États, il y a aussi des entreprises venant d'ailleurs. Les GAFAM, les grandes plateformes du e-commerce chinois, pensent de plus en plus à l'activité agricole et alimentaire. Parce que ce sont des sujets stratégiques, encore une fois, qui concernent toute la planète, tous les jours. La question alimentaire, c'est un sujet structurel qui traverse les continents et les époques. L'Europe, dans ce contexte, a plein d'atouts. L'Europe, elle fait de la quantité, elle fait de la qualité, elle fait de la diversité. Elle fait, en agriculture, en alimentation, ce que peu de continents réussissent à faire. Parce qu'elle a des avantages géographiques. Elle a, depuis 70 ans, cherché collectivement à organiser le meilleur système de sécurité alimentaire de la planète. Et c'est sans doute le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons une Europe qui peut perdre de la compétitivité agricole et alimentaire pour deux raisons. La première raison, c'est que l'Europe va mal. Et le Brexit est une expression de cette souffrance européenne politique. Depuis 10-15 ans, l'Europe ne sait plus où elle va. Le projet politique européen se délite. Et le grand risque après 2020 pour la politique agricole commune en Europe, ce n'est pas tant les éventuelles réformes de la PAC et ces inflexions, c'est le risque d'avoir une désunion politique des Européens. Et ça portera un coup sévère à l'ensemble des politiques communautaires, dont la PAC est l'un des symboles. Mais deuxièmement, vous avez une politique agricole commune qui a perdu le sens stratégique et géopolitique de sa vocation initiale, et nous avons déplacé le débat sur la politique agricole commune sur des sujets certes importants comme l'environnement ou le développement rural, et ça c'était complémentaire à l'expression première d'une sécurité alimentaire, d'un développement économique, d'une certaine souveraineté agricole européenne dans cette mondialisation, mais il faut maintenir l'ensemble de ce dispositif. Si demain la politique agricole commune perd de vue l'exigence de souveraineté agricole alimentaire en Europe, avec un certain nombre de prérogatives où l'Europe est capable aussi d'exprimer à l'international une ambition grâce au secteur agricole et alimentaire qui fait aussi qu'elle peut rayonner dans le monde, parce qu'on a pas beaucoup d'atouts qui nous permettent d'être dans la mondialisation efficace. Le secteur agricole le permet. Et demain, le Brexit, en fait, peut à la fois pénaliser l'Europe politique, on le voit déjà, mais le Brexit va incarner tout ce que la politique agricole commune ou la politique commune de la pêche ont témoigné depuis des décennies. C'est-à-dire que l'interdépendance des États européens a fait en sorte qu'ils étaient meilleurs entre eux, meilleurs parce qu'ils étaient en collectif, et dans leur expression internationale, ils étaient plus compacts. On parle beaucoup de la désunion des Européens sur plein de sujets, c'est vrai. Dans le domaine agricole, alimentaire et de la pêche, c'est important. Le Brexit risque de montrer à tout le monde que sans l'Europe, c'est bien plus difficile.
Alors, je reprends quelques éléments de ce que vous avez dit, Sébastien Wyss, pour aller peut-être un tout petit peu plus loin. Effectivement, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni, va signifier évidemment des pertes budgétaires. À cela s'ajoute la question de la PAC. La responsabilité n'incombe pas uniquement au Brexit. Il y a le budget donc alloué à l'agriculture après 2020 qui va baisser. Je parle sous votre contrôle à chacun. Conséquence aussi des nouvelles priorités de l'Union européenne. Il y a le numérique, vous l'avez évoqué très rapidement, l'immigration, la question de défense, et puis donc un processus de renationalisation de cette politique commune. Alors, plusieurs questions par rapport à cela. Est-ce que l'agriculture n'a pas aujourd'hui la place qu'elle devrait avoir dans l'agenda politique de l'Union européenne? Pour quelles raisons? Et est-ce que effectivement cela risque de signifier pour l'Europe une perte de puissance à l'échelle mondiale? Christophe Buren.
Je voudrais tout d'abord revenir un tout petit peu sur cette notion de contributeur net que vous avez signifié ou que vous avez mis dans votre première question. Parce que c'est vrai que les Anglais étaient contributeurs nets, et ils le sont encore, puisqu'ils ne sont pas totalement sortis, même s'ils vont sortir assez rapidement, étaient contributeurs ou sont contributeurs nets au budget européen. Mais ils sont également contributeurs nets, non pas juste d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue idée politique. C'est-à-dire que ce sont les Anglais qui, en grande partie, ont amené dans les idées de la PAC et dans le respect des normes de la PAC une notion d'environnement. La PAC plus verte, c'est en partie une idée un peu anglaise. C'était l'idée de public money for public goods. Et ça a du sens, puisque l'Europe demande plus d'environnement, plus il y a plus de normes sociales également que l'on demande aux agriculteurs de respecter, donc pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. Et par rapport à ces normes supplémentaires, il est logique d'allouer une certaine enveloppe financière, puisque nous sommes dans un monde globalisé et nous avons ouvert les frontières essentiellement aux produits agricoles. Donc il y a ce complément de rémunération qui est donné aux agriculteurs. Les Anglais ont apporté ça. Maintenant, d'un point de vue purement financier, il faut regarder aussi cette, pour aller au-delà de ce qu'a pu dire Sébastien, la transformation de ce que risque de nous apporter le Brexit. Parce que cette fermeture des frontières, peut-être dans les semaines qui viennent, fermeture ou plus grande complexité à traverser la Manche. Déjà à court terme, ça a été une dévaluation de la livre. Ce qui veut dire que pour nos échanges en fait intra-européens, c'est un surenchérissement en fait de nos productions agricoles du continent vers l'Angleterre, et donc soit vous diminuez vos prix, soit vous vendez moins en Angleterre. Au-delà de ça, demain, on peut imaginer qu'il y aura des droits de douane et plus de complexité administrative. Donc là encore, c'est restreindre quelque peu nos échanges agroalimentaires pour un groupe comme le nôtre qui vendait par exemple des croissants. En Angleterre, c'est peut-être demain moins de croissants, et il faut savoir que même en Angleterre, il n'y a pratiquement pas d'usines qui produisent des croissants. Donc, est-ce que demain, il faudra construire des usines en Angleterre pour produire des croissants? Sous-entendu, nous en produirons moins en France, donc que ferons-nous nos unités de production? Ça fait partie de toutes ces interrogations que nous devons avoir. Il y a bien évidemment toutes les considérations très géopolitiques de Sébastien, mais parfois il faut également que nous regardions nos spécificités agricoles et agroalimentaires européennes et se poser les vraies questions de ce que nous voulons demain en Europe.
Jean-Marc Chaumet.
Oui, je voudrais rajouter à ça aussi les effets indirects du Brexit, qui sont que, par exemple, l'Irlande, qui est un grand partenaire agricole du Royaume-Uni, si, comme ça a été dit, les flux sont ralentis, freinés avec le Royaume-Uni, une grande partie, par exemple, des produits laitiers ou de la viande irlandaise va se retrouver sur le marché communautaire et donc pourra notamment faire pression sur les productions locales, sur les prix locaux en France, en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc il y a aussi ces effets indirects à prendre en compte. Et je rebondis avec ça sur la PAC, c'est que il y a en effet donc un problème de budget si le Royaume-Uni sort, mais toute chose égale par ailleurs, rien n'empêche politiquement de changer les règles et d'augmenter la part des contributions des États membres au budget de la PAC. Ça, c'est une volonté politique. Mmh. Et l'autre chose aussi, c'est que, vous l'avez dit, la Commission voudrait laisser une plus grande marge de manœuvre aux États. Mmh. Et une des craintes de nombreux États, c'est une concurrence exacerbée entre les États de l'Union européenne. On parle beaucoup de l'Europe comme une puissance, mais il faudrait aussi regarder à l'intérieur de l'Europe les différents pays et la concurrence entre ces différents pays. Je viens de parler de l'Irlande, mais il y a aussi d'autres concurrences. On peut parler de la Pologne sur la volaille, notamment, qui concurrence fortement. Et puisqu'il y a déjà pas forcément des distorsions de concurrence, mais en tout cas des réglementations différentes en fiscalité, en droit social entre les différents pays européens. Et s'il se rajoute par-dessus une plus grande latitude des pays à pouvoir mettre l'argent sur tel ou tel aspect de la PAC, alors moins sur l'environnement, plus sur l'environnement, ça risque encore de rajouter une couche supplémentaire dans la concurrence entre les pays qui pourrait être défavorable à la France.
Alors pour terminer cette première partie, je vais résumer. Hein. Concurrence entre Europe orientale et occidentale, Jean-Marc Chaumet vient de l'évoquer. Ces pays devraient pourtant comprendre que leur intérêt serait de coopérer malgré les difficultés, car elles portent ensemble le plus fort potentiel de contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Alors, avenir incertain de l'agriculture européenne, on peut rappeler que l'Europe est la première exportatrice de produits alimentaires en ce début du XXIe siècle. Est-ce qu'elle peut, l'Europe, redevenir insuffisante au niveau alimentaire ?
Par rapport à ça, très rapidement, d'abord, tous les pays dans le monde échangent. Et depuis toujours, il y a des exportations et des importations. On ne produit pas de tout partout. Et les consommateurs, par contre, veulent de tout, tout le temps. Et à toutes les saisons. Et plus le temps passe, plus on est en train d'amplifier ces dynamiques. Ce qui fait que l'Europe, ben oui, importe des choses et exporte également. Maintenant, demain, l'Europe ne va pas tomber dans une hyper-dépendance alimentaire vis-à-vis du reste de la planète. On en est très loin. Il faudrait vraiment un détricotage politique européen et un arrêt brutal des productions agricoles européennes pour tomber dans un tel scénario. Ce qui est aujourd'hui posé comme question géostratégique, c'est la volonté de l'Europe d'être au cœur de la mondialisation et d'éviter sa provincialisation. L'agriculture et l'alimentation peuvent être des contributeurs à l'influence de l'Europe dans le monde et peuvent être des éléments clés pour préserver un certain degré d'autonomie pour produire en Europe ce que nous pouvons et d'avoir en Europe une certaine sécurité dans les estomacs et sécurité collective. Si demain l'Europe décide de ne plus miser sur l'agriculture et si les États européens décident de ne plus miser sur l'Europe, il est probable que notre confort alimentaire et notre sécurité humaine et notre équilibre territorial aussi entre ville et campagne soient bouleversés. Ça prendra pas quelques jours ou quelques semaines, mais à l'échelle de quelques années, sachant que le monde accélère sur ces questions d'autre part, en effet, l'Europe peut se retrouver comme grande province agricole et alimentaire sur la planète.
Parce que concurrence intra-européenne il y a, et puis extra-européenne aussi, ne serait-ce qu'à nos portes, Christophe Buren, très rapidement, on voit la Russie faire une percée importante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, là où l'Europe a une place ne serait-ce que historique.
Mais les Russes ont fait un véritable choix. Ils ont fait le choix de la production agricole. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de développer leur production agricole et d'aller exporter cette production dans les pays qui en ont besoin parce qu'ils ne sont pas justement autosuffisants. Et c'est devenu chez eux une arme géopolitique. Mais permettez-moi juste de revenir sur un sujet. C'est cette notion d'autosuffisance alimentaire européenne. Il y a un institut allemand qui a fait justement une étude sur cette autosuffisance et qui a repris toutes les exportations européennes, mais également toutes les importations. Mmh. Et qui, au lieu de parler en tonnes de viande ou en kilos de céréales, ce que l'on veut, eh bien ramener tout cela en hectares. Et quand on fait le solde de tous ces hectares qui sont exportés, le solde de tous les hectares qui sont importés, eh bien nous sommes déficitaires de 35 millions d'hectares. Donc juste pour donner une notion de 35 millions d'hectares, la France c'est 15 millions à peu près d'hectares de culture en général et 15 millions d'hectares de prairies. Donc vous voyez, nous sommes en fait déficitaires au global de la surface française.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Christophe Buren, Jean-Marc Chaumet et Sébastien Abyss, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'agriculture. Nous retrouvons nos invités. Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter, spécialisé dans le secteur agricole et agroalimentaire. Chercheur associé à l'IRIS, Sébastien Abyss, qui a également dirigé la dernière édition du Déméter, concentré d'analyse prospective sur l'agriculture, l'alimentation et le développement dans le monde. Jean-Marc Chaumet, agroéconomiste à l'Institut de l'élevage, co-auteur avec Thierry Pouche de la Chine au risque de la dépendance alimentaire et membre du comité de rédaction de Déméter. Et Christophe Muren, président de Vivesia, groupe coopératif agricole et agroalimentaire spécialisé dans la culture et la valorisation alimentaire des céréales. Christophe Muren, je vous ai interrompu au terme de la première partie de l'émission par manque de temps. Nous évoquions les questions d'autosuffisance de l'Europe en termes alimentaires. On évoquait la concurrence intra-européenne et extra-européenne. J'évoquais le cas de la Russie très présente aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est une façon d'avoir de l'influence dans cette région, au risque que l'Europe redevienne insuffisante au niveau alimentaire. On peut rappeler qu'elle est aujourd'hui la première exportatrice de produits alimentaires en ce début du XXIe siècle.
L'Europe doit se poser des questions sur les défis de demain, c'est-à-dire ne pas juste regarder ces problèmes ou non d'autosuffisance alimentaire. Nous devons nous poser la question du défi alimentaire mondial. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut regarder. On parle aujourd'hui d'autosuffisance, mais est-ce qu'on doit parler d'autosuffisance de la France, de l'Europe, du monde, quand on sait qu'il y a cette augmentation de la population mondiale? Moi, je veux revenir sur une notion de base qui fait partie des premières notions que l'on instruit dans les cours d'agronomie en France, mais également partout dans le monde, c'est la relation climat-sol-plante. C'est-à-dire que pour qu'une agriculture soit optimisée et qu'elle tourne bien, il faut associer le climat, le sol et la plante. L'Europe est faite pour un certain nombre de productions, parce que au-delà de la technicité de ses agriculteurs et de tous ces instituts techniques, y compris de l'INRA bien évidemment en tant qu'institut de recherche, il nous faut vraiment nous projeter. Et si on veut se projeter, eh bien il faut se dire que ce que l'on peut produire de façon extrêmement efficace en Europe, eh bien il faut continuer à le produire. C'est le cas par exemple des céréales. Parce que le continent est comme ça, parce que le sol et le climat sont ainsi faits, nous avons une vocation de producteurs de céréales. D'autres régions du monde ont plus une vocation de producteurs de légumineuses. Et c'est là où nous devons nous poser des questions, c'est est-ce qu'il faut accepter la mondialisation telle qu'elle a été introduite maintenant depuis des dizaines d'années, donc accepter ces échanges entre continents, ou est-ce qu'il faut se replier sur soi-même et juste chercher à produire pour sa propre population ou pour son propre environnement économique. Mais si on essaye de se projeter d'un point de vue mondial, je pense qu'il est important de se dire que là où les cultures poussent correctement, c'est là où il faut les faire pousser. Et pas juste vouloir forcer la nature, parce que la nature, vous ne pouvez pas la forcer. Vous pouvez essayer de tester des choses pendant 2-3 années, mais ça ne marchera pas. Donc l'Europe doit reprendre ce sens en fait de sa production, non pas juste regarder le côté alimentaire, qui est important, parce que je le disais tout à l'heure, la consommation alimentaire est devenue plurielle, mais elle doit se repositionner d'un point de vue stratégique et se dire, mais je suis un territoire d'excellence pour certaines productions, et si je suis ce territoire d'excellence, est-ce que je veux l'assumer? Dans ce cas-là, j'exporte ces productions, et en contrepartie, j'en importe d'autres.
Alors, vous parlez de quoi, très exactement? Quelques exemples, Christophe?
Un exemple simple, c'est que, si on prend des chiffres, en Europe, les rendements hectares des céréales sont grosso modo du double du reste du monde. Donc il y a une certaine logique, si nous produisons plus de céréales à l'hectare en Europe que le reste du monde, de produire plus de céréales chez nous, en proportion. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, bien entendu. Et à l'inverse, si je prends par exemple l'Amérique du Sud, qui est le continent roi du soja, eh bien continuons de produire, mais pas que bien évidemment, mais de façon plus accentuée, du soja en Amérique du Sud, parce que quand ils produisent du soja, ils en produisent autant que nous. Donc là, ça fait du sens géopolitique. Parce qu'au final, si vous ne respectez pas cette agronomie, donc ce triptyque climat-sol-plante, eh bien vous allez consommer plus d'hectares pour produire autant. Si vous consommez plus d'hectares, eh bien comme vous n'en avez pas beaucoup plus sur la planète, vous allez être obligé de recourir à la déforestation. Donc là, il y a un véritable choix. Et il faut qu'on en mette ce choix vraiment dans la tête de nos politiciens, mais également dans la tête des citoyens, et mettre tout sur la table, pas juste le consommer local ou juste l'autosuffisance alimentaire d'un pays ou de l'Europe.
Il me semble qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de ces choix auxquels vous appelez, Christophe, à l'échelle mondiale.
À l'échelle mondiale, je pense que oui, mais comme le disait Sébastien tout à l'heure, je pense qu'en Europe, on a encore un certain nombre d'interrogations, parce qu'on est resté sur ce consommer local, production locale, et on n'a pas encore cette projection vers le monde.
Alors la Chine, elle a vu la Chine, son déficit commercial en produits agricoles et alimentaires s'aggraver hein, depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Par voie de conséquence, elle exerce une forte pression sur les disponibilités agricoles et alimentaires. Où en est la Chine et est-ce que la stratégie de Pékin à travers les routes de la soie est une stratégie à lire à travers le prisme agricole et alimentaire, Jean-Marc Chaumet?
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, la Chine est importatrice nette de produits agricoles et alimentaires. Et la Chine, dans sa progression économique et dans sa volonté de devenir la première puissance du monde en 2049, ne peut décemment être dépendante pour son alimentation comme pour d'autres matières premières. La Chine a connu dans son histoire plusieurs embargos, l'utilisation de l'arme alimentaire à son encontre, et elle est un peu vaccinée contre tout ça et ne veut pas dépendre vraiment de l'étranger. La Chine a essayé de forcer son environnement pendant de très nombreuses années pour être autosuffisante, avec des conséquences environnementales sévères, et s'est rendu compte que ça n'était pas possible, et donc elle a acté l'importation de produits. Mais elle cherche à sécuriser son approvisionnement. Et les routes de la soie, qui sont en même temps un projet stratégique, un projet aussi pour exporter une surcapacité industrielle, est aussi un projet pour sourcer des matières premières, et notamment des matières premières agricoles. Un document politique qui est sorti il y a quelques jours en Chine dit clairement que les routes de la soie doivent être utilisées pour diversifier l'approvisionnement agricole chinois. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le long de la route de la soie, les stratégies chinoises sont différentes. Dans certains pays, la Chine cherche en effet à capter des matières premières. Par exemple, en Asie du Sud-Est, beaucoup de produits végétaux. Dans d'autres pays, la Chine cherche au contraire à augmenter la production locale. Pas forcément pour la ramener chez elle, mais pour que les pays, notamment d'Asie centrale ou d'Afrique, pèsent moins sur les échanges mondiaux. Et donc, permettent de baisser les prix, ou du moins de ne pas augmenter les prix, pour que la Chine, elle, puisse notamment se servir. Donc il y a différentes stratégies en fonction des pays. Et enfin, il y a les pays, je dirais, de l'OCDE, que ce soit l'Europe, l'Océanie ou les États-Unis, où là, la Chine va chercher des produits animaux, notamment des produits laitiers, des viandes. La France a maintenant accès au marché chinois de la viande bovine ou de la viande porcine. Et donc, il y a une volonté différenciée selon les régions du monde et aussi une volonté de diversifier ses approvisionnements pour moins dépendre de certains pays, puisqu'il faut savoir que trois pays fournissent 50% des importations chinoises en matière agricole. Ce sont le Brésil, les États-Unis et l'Australie. Ouais. C'était les États-Unis le premier fournisseur de la Chine en produits agricoles jusqu'en 2016. Maintenant, c'est le Brésil. Et on peut voir que la guerre sino-états-unienne aujourd'hui va relancer cette dynamique chinoise de diversifier ses approvisionnements pour dépendre encore moins des États-Unis et peut-être d'autres pays comme le Brésil, mais il s'agit là d'une dépendance réciproque sur un plan stratégique, puisque le Brésil va dépendre de plus en plus aussi de la Chine pour ses exportations de soja. Donc là, la Chine est en train de bouleverser un petit peu les échanges mondiaux en matière agroalimentaire à travers la route de la soie et à travers cette guerre sino-états-unienne.
Alors, précisément, vous faites ma transition, Jean-Marc Chaumet, grand merci. Donc cette guerre commerciale Chine-États-Unis, quels impacts sur la question agricole? Et est-ce que cette dynamique conflictuelle peut déboucher sur une reconfiguration de la hiérarchie des nations exportatrices de produits agricoles?
Oui, notamment en termes de puissance. On peut voir donc que les États-Unis sont une puissance agricole qui est un petit peu déclinante, mais la puissance ne se traduit pas qu'en termes d'exportation. Le fait d'être autosuffisant est aussi, ou de sécuriser ses approvisionnements est aussi une forme de puissance agricole. Et donc là, à travers ce conflit, la Chine est en train d'augmenter sa puissance agricole, comme la Russie l'a augmenté après l'embargo sur les produits européens, comme le Qatar l'a fait suite à l'embargo de l'Arabie Saoudite. Il y a, dans différents pays, suite à des conflits commerciaux, une augmentation, je dirais, de l'autosuffisance ou de la sécurisation des approvisionnements agricoles qui rebat les cartes au niveau mondial. Et aussi la place de l'Europe là-dedans, on pourrait dire. L'Europe qui joue sur deux tableaux. L'Europe qui a accepté d'importer plus de soja des États-Unis pour compenser la perte du débouché chinois, mais l'Europe aussi qui exporte plus notamment de viande porcine vers la Chine pour compenser les moindres exportations états-uniennes. Et dernière chose, comme je l'ai dit, aussi des pays comme le Brésil qui essayent de exporter plus vers la Chine pour compenser les moindres exportations états-uniennes de soja, qui de ce fait augmentent leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que ce conflit sino-états-unien renforce aussi l'axe Russie-Chine. Puisque la Russie est un partenaire stratégique de la Chine, mais un petit partenaire commercial. Or, il y a de nombreux projets aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place en Russie. La Russie a beaucoup de terres, mais peu de main-d'œuvre. La Chine a beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, les exportations de soja de la Russie vers la Chine ont doublé en un an. Il y a aussi des exportations de porc qui sont prévues, des exportations de volailles qui sont prévues. Donc, tout ça est en train de reconfigurer un petit peu le paysage mondial.
Donc, au renforcement, et on ne l'a pas encore évoqué, de la Russie, oui, et puis de l'Ukraine également. Oui. Christophe Buren, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Et après ça, on va parler de l'Éthiopie avec Sébastien Mabis.
Ce que je peux peut-être rajouter, c'est de voir justement cette différence de stratégie entre les pays. Si on prend l'Ukraine, la Russie et la Chine dans Jean-Marc vient de nous parler, ce sont des pays qui ont encore cette inquiétude pour leur alimentation. En Europe, depuis un certain nombre d'années, on n'a plus aucune inquiétude pour notre alimentation. On se dit, mais il y en a largement assez, et au contraire, on a un souci de gaspillage, auquel il faut bien évidemment penser. Et donc, je crois que quand on n'a pas les mêmes soucis, finalement, on n'a pas les mêmes réflexes. Le réflexe aujourd'hui, l'inquiétude en Europe, c'est plus pour la qualité ou pour sa santé que pour la quantité. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une différence de réflexion fondamentale entre ce qui peut se penser en Europe et ce qui se pense ailleurs dans le monde. Mais si on rappelle juste à nos auditeurs et également à l'ensemble des Européens que, au final, si on regarde la planète, il y a un problème quand même de déficit ou pas loin d'alimentation. Il faut penser à la production. Il faut donc repenser l'agriculture et la production agricole comme un outil stratégique mondial.
Alors, vous parliez justement des pertes et du gaspillage. J'ai relevé ces chiffres. Là aussi, je parle sous votre contrôle en préparant cette émission. Un tiers des aliments produits chaque année dans le monde pour consommation humaine, soit 1,3 milliard de tonnes, sont perdus ou gaspillés. Et ça, c'est de quoi nourrir 2 milliards d'individus. Sébastien Abyss, vous voulez réagir à cela et
Je peux rebondir à ça volontiers, d'autant plus que pour moi, ça fait le lien avec les routes de la soie et un certain nombre de questions qui ont été évoquées en termes commerciaux. L'élément de sécurité, c'est la logistique. La logistique, c'est rapprocher l'offre et la demande. C'est faire en sorte qu'on ait porte à porte des aliments qui peuvent circuler dans des temps les plus courts possibles sans être altérés d'un point de vue sanitaire. Donc il faut qu'ils arrivent plus vite sur les tables, il faut qu'ils arrivent de manière plus sûre encore d'un point de vue sur le plan sanitaire et avec plus de diversité, ça a été dit. La logistique, c'est l'élément central des routes de la soie, Jean-Marc Chaumet l'a évoqué. La logistique, c'est l'élément qui demain va faire aussi qu'on perd moins de nourriture après récolte pendant le transport, pendant le stockage, pendant la transformation et évidemment pendant les actes de restauration et de consommation. C'est vraiment un levier important pour augmenter la sécurité alimentaire demain, c'est réduire les gaspillages et les pertes tout au long des filières de la production à la consommation. Et la logistique, c'est ces circuits à la fois de proximité, c'est ces circuits chez soi, entre son frigo et sa table, jusqu'à sa poubelle, mais c'est aussi ces circuits très longs avec les routes de la soie, ce qui fait qu'on voit aujourd'hui des acteurs de la logistique type Amazon ou Alibaba ou JD.com, pour prendre trois géants mondiaux, qui viennent de plus en plus sur la question agricole et alimentaire. D'abord parce qu'il y a un business autour de l'alimentaire et qu'il faut pouvoir sécuriser ces flux logistiques de manière stratégique. Sur ce point-là, il me semble que on voit bien, et ça a été dit par Christophe Buren, que la question de la quantité ne peut pas être oubliée. Tout le monde réclame de la quantité, de la qualité, de la diversité. Nous avons peut-être juste ce petit problème en Europe aujourd'hui d'avoir l'impression que la quantité est acquise. Mais rien n'est acquis en agriculture. C'est des équilibres fragiles, ça a été évoqué, ça dépend du climat, ça dépend du travail des uns et des autres. Ce sont des équilibres à entretenir. Si on désarme sur la question de la quantité, on perdra évidemment en qualité et en diversité. Donc on est sur un triptyque qui est incontournable, interdépendant. Il faut produire mieux, il faut produire de manière diversifiée. Et en fait, toute la planète est obnubilée aujourd'hui par cette problématique-là. C'est pour ça que tout le monde s'active de plus en plus. Et la Chine montre aujourd'hui à la planète que cette question de la sécurité alimentaire, ben oui, le consommateur chinois de la classe moyenne aujourd'hui, il veut être rassuré. Si la rassurance c'est d'acheter mondial parce que par exemple le Made in France est très bien perçu en Chine, eh ben on accepte le circuit long. Ça n'empêche pas des Chinois de consommer parfois des circuits courts avec des productions locales. C'est bien cette combinaison locale ou mondiale qui fait qu'on trouve un équilibre. Et nous avons un continent, l'Afrique, qui est au cœur de ce défi. Parce que l'Afrique va devoir produire plus, produire mieux, produire avec toutes les innovations techniques, technologiques, socio-organisationnelles, moins gaspiller, et l'Afrique va devoir en plus
gérer sur la question de la sécurité alimentaire des jeux extrêmement intimes avec la géopolitique et les stratégies de puissance, et sur le continent africain et de la part des puissances mondiales qui s'activent sur le continent africain. Donc cette géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation, si on zoome sur le seul continent africain, vous avez une expression parfaite des grands défis planétaires.
Alors vous évoquez dans le Déméter trois puissances émergentes qui sont en train de prendre une véritable place sur le plan agricole, alimentaire. La Colombie, le Vietnam en Asie et puis l'Éthiopie pour l'Afrique. Alors quelques mots sur l'Éthiopie qui consacre 17% du budget de l'État éthiopien à l'agriculture. C'est absolument impressionnant. Quels sont rapidement les éléments constitutifs de cette émergence de l'Éthiopie en matière agricole ?
Alors l'Éthiopie, en quelques chiffres, l'Éthiopie, c'est 100 millions d'habitants, plus de 150 millions d'habitants dans 20 ans. C'est donc un pays très jeune. La moitié de la population éthiopienne a moins de 20 ans. L'Éthiopie, c'est le château d'eau de l'Afrique. C'est les eaux du Nil, c'est le contrôle du Nil vers l'Égypte, c'est le barrage de la Renaissance, l'expression de la puissance éthiopienne. L'Éthiopie est un grand pays militaire en Afrique, est aussi un grand pays hydraulique et les ressources en eau pèsent forcément dans le poids géopolitique éthiopien. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est 80% de la population qui est encore rurale, ce qui explique qu'on dédie beaucoup de ressources à l'activité agricole, puisqu'en plus l'agriculture, c'est 40% du PIB éthiopien, quand bien même l'Éthiopie s'industrialise et développe un tas de services, et des services y compris dans la logistique. Je rappelle qu'Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne, est une des compagnies les plus modernes aujourd'hui sur la planète. C'est un des plus grands pays producteurs exportateurs de café aujourd'hui dans le monde. L'Éthiopie, c'est le premier cheptel du continent africain, un élevage extrêmement important. Mais l'Éthiopie, c'est un Janus. C'est un Janus africain d'un point de vue agricole et alimentaire. Pourquoi ? Parce que il y a 20-30 ans, quand on parlait de l'Éthiopie, c'était aussi les famines, la faim, et elle n'a pas complètement disparu dans certaines zones de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays où les équilibres internes sont extrêmement fragiles. Il y a depuis quelques mois un nouveau gouvernement, une nouvelle présidente, un pays qui va de l'avant, qui fait la paix avec l'Érythrée, qui cherche des solutions pour se développer. Mais l'Éthiopie, c'est peut-être le pire voisinage du monde. Si on prend une carte de l'Éthiopie et qu'on regarde qui sont ses voisins, ce sont pas forcément les pays les plus stables et les plus calmes de la planète. Et puis l'Éthiopie, c'est encore une très grande dépendance commerciale avec un tout petit goulet d'étranglement qui s'appelle Djibouti. 80% du commerce de l'Éthiopie passe par Djibouti, ce qui explique aussi ce rapprochement avec l'Érythrée pour avoir un autre accès sur le plan logistique et maritime pour commercer avec le monde. Je rappelle aussi que l'Éthiopie, c'est la Chine, c'est les routes de la soie. Et c'est une Chine très présente en Éthiopie, y compris dans le secteur agricole. Mais ce n'est pas que la Chine, c'est aussi l'Inde ou d'autres acteurs internationaux qui ont bien compris que l'Éthiopie, c'était un grand émergent africain, plein de promesses, mais aussi plein de fragilités, qu'il fallait sécuriser son développement.
Alors, on reparlera de l'Éthiopie dans le cadre d'une prochaine émission sur la mer Rouge, les contours de la mer Rouge. Très rapidement, en guise de conclusion, Christophe Buren, on a évoqué l'importance de la sécurité alimentaire dans le monde. Agriculteur, un métier d'avenir.
Évidemment, l'agriculture, en fait, c'est une nécessité, en fait, pour tout simplement alimenter le monde. Et puis, c'est également un métier d'avenir grâce aux nouvelles technologies qui vont arriver. Le digital, le numérique, la robotisation, etc. vont totalement transformer ce métier. Donc oui, c'est un métier d'avenir parce qu'il y a du vrai sens. Le sens, c'est nourrir les citoyens, nourrir la planète. Et puis, c'est un beau métier parce qu'il évolue avec son temps. Il doit respecter encore plus l'environnement qu'il ne le fait aujourd'hui et continuer à produire.
Alors, les agriculteurs qui sont la catégorie socio-professionnelle la plus connectée. Ça peut dire abysse,
oui,
en
je confirme,
les
agriculteurs participent à l'avenir. Ils sont aussi très connectés parce qu'en fait, ils travaillent généralement du lundi au dimanche. Et il ne faut pas oublier non plus que cet effort agricole qui permet la sécurité alimentaire de tout à chacun repose sur un travail hebdomadaire complet d'un segment de la population qui travaille beaucoup plus.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Sébastien Abysse, je rappelle que vous êtes directeur du Club Déméter, spécialisé dans le secteur agricole et agroalimentaire, chercheur associé à l'IRIS, et vous avez dirigé la dernière édition du Déméter, concentré d'analyse prospective sur l'agriculture, l'alimentation et le développement dans le monde. Christophe Buren, président de Vivesia, groupe coopératif agricole et agroalimentaire spécialisé dans la culture et la valorisation alimentaire des céréales. Et Jean-Marc Chaumet, agroéconomiste à l'Institut de l'élevage, co-auteur avec Thierry Pouche de la Chine au risque de la dépendance alimentaire et membre du comité de rédaction de Déméter. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. À samedi prochain.